vous mettez 10 grammes de sel par litre d'eau.
Je fais cuire des petites pommes de terre nouvelles.
Et des fraises, bien sûr.
Europe 1, hyper simple. 11h30, la table des bons vivants.
On envoie les tomates farcies. Allez.
Laurent Mariotte.
Bien le bonjour les amis, soyez les bienvenus. Vous le savez, produits de saison, débat, conseils et bonnes adresses. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et demi. Alors le salon du chocolat a ouvert ses portes. On va en profiter, tiens, pour en croquer. Mais pas n'importe lequel, du chocolat éthique et durable. Et pour notre dossier, on se jette à l'eau. De source, minérale, filtrée. Quelles sont les différences entre les eaux? Comment les utiliser en cuisine et à table? On va répondre à ces belles questions. Voici mes bons vivants du jour. Quand il s'agit de sélectionner de belles bouteilles, elle ne met pas de l'eau dans son vin. Non, Miss Glouglou pour les intimes est avec nous. C'est Ophélie Neyman. Bonjour Ophélie.
Bonjour Laurent.
Ça va bien?
Ça va très bien, merci.
Heureux de vous retrouver.
Moi aussi.
Il ne cuisine pas à l'eau, mais il se réhydrate à l'eau en cuisinant. C'est notre bistronome en chef, Yves Candebord. Bonjour Yves.
Bonjour Laurent, bonjour Ophélie. Mais attention
bonjour
Laurent.
Yves.
L'eau avec modération. toujours un peu de vin quand même. Hein.
Ça rouille, vous avez peur.
Exactement.
C'est ça. Et vers midi moins le quart, on va retrouver notre invité Bruno Solo autour d'un beau plat de Saint-Jacques. C'est la saison, alors on en profite. Petit rituel, hein, vous le savez les amis, en voiture à la maison, posez-vous la question, quel est votre goût de la semaine? Ça peut être un produit de saison, un plat que vous avez mangé chez des amis ou au restaurant. Je vous pose la question, votre goût de la semaine, Ophélie, tiens.
Eh bien moi, j'ai redécouvert la bavette de bœuf. Généralement, je la cuisine de manière très franchouillarde, hein, avec un petit accompagnement, des haricots verts, quelque chose comme ça. Et là, j'ai décidé de le faire vraiment à la japonaise avec des udons. Et donc de le faire mariner dans de la sauce soja et de le faire revenir après dans un bouillon avec bouillon d'hachis, mirin, etc. Et ça m'a fait complètement redécouvrir cette viande en fait.
Redites ce que sont les udons.
Les udons, ce sont des grosses nouilles japonaises.
Voilà, des grosses pâtes.
Oui, des grosses pâtes qu'on mâchonne comme ça, comme des grosses spaghettis qui ont de la mâche. Et c'est pour ça que je les aime beaucoup.
Ah bah c'est bien ça, on n'était pas invités alors.
Et...
Yves Candebord.
Elle a peur de nous inviter.
Yves Candebord, votre goût de la semaine.
Eh bien moi, c'est en promenant dans le quartier de Mouffetard, dans le 5e, je me suis arrêté dans un petit bistrot qui s'appelle Caluche, 17 rue Mirbel. Et ça fait du bien de retrouver des établissements sans prétention, avec de la chaleur humaine, avec des bons produits, une belle carte des vins. Alors c'est tenu par Ben, qui est un personnage haut en couleur,
un costaud,
avec un serveur emblématique que beaucoup de Parisiens connaissent, François, et sa barbe, là, à barbe authentique et très longue. Et j'ai passé au coin, voilà, juste au coin du bar, un moment remarquable. Ça fait plaisir de retrouver
les
endroits.
Oui, j'ai vu sur votre Instagram, vous avez même mis une photo, je pense, de ce joli zingue.
Tout à fait, hein, tout à fait.
C'est vrai qu'on aime les zingues.
Oui, et puis ça fait plaisir de retrouver des endroits qui, voilà, où il n'y a pas de mode, il n'y a pas de tendance, il y a simplement de la vie et de la qualité.
Conservez vos zingues, chers amis restaurateurs. C'est vrai que ça fait partie vraiment de l'ambiance et de l'âme d'un bistrot. Moi, je suis tout triste, il y avait un super bistrot à côté de chez moi. Ils ont tout cassé le zingue, ils en ont mis un nouveau en carrelage même. Et il y avait ce joli zingue qui avait du vécu, qui avait de la patine et il est parti.
Ouais, puis c'est vrai de manger, quand on mange le zinc comme ça, on vit la maison, on voit le gars qui lave les verres, on voit le gars
c'est
qui
ça.
Serre les canons.
Moi j'adore être
au
zinc.
On vit.
Alors mon goût de la semaine, c'est une épaule d'agneau confite pendant 2h30 à 160 degrés avec un petit peu de vin blanc et des aromates. Et surtout en accompagnement, 3 quarts d'heure avant de servir, j'ai fait des carottes boules. Vous savez, ces petites carottes en forme de boule que j'ai coupées en quartier. Je les ai fait revenir avec de l'ail, du cumin et de l'huile d'olive. Et c'est en garniture de l'épaule d'agneau confite. Il y avait un petit côté voyageur. Et ben on était pas mal. Voilà.
Un petit côté Maghreb.
Et on n'était pas invité.
Exactement. Ben, je vais faire comme vous. Allez, c'est l'heure d'aller au marché. Ce sont les vacances et le début du grand week-end de la Toussaint. Sur le marché de la place Monge à Paris, vous étiez nombreux à faire les dernières courses avant de partir en week-end ou de recevoir de la famille et des amis. Eh bien, Julien Amat vous a tendu le micro pour connaître votre menu du week-end.
Alors aujourd'hui, très peu de choses parce que je pars bientôt en week-end. Donc des carottes parce que ça se conserve. Je vais préparer des pickles d'oignons rouges. Je vais les offrir un pot à mes parents, un pot à mon frère, absolument.
Ma sœur vient me rendre visite ce week-end et j'ai envie de lui faire plaisir. Je fais un osso-buco, donc c'est pas compliqué. Ouais. J'ai besoin du jarret de veau, des carottes, des oignons. Je compte faire des petits légumes grillés au four. Donc j'ai pris du butternut, une patate douce.
Un kilo en plus, oui, s'il vous plaît.
Des kiwis, des prunes. Et puis après les carottes, courges. Bah, cuisiner plus ouais, au quotidien. Après c'est plus pour faire des gâteaux pour voilà, parce qu'on a le petit pendant les vacances. Donc on fait des tartes en famille quoi.
Avec mon papa et ma belle-mère. Des fois des gâteaux au chocolat.
Ah, des gâteaux au chocolat, mais oui, ce sont les vacances. Cuisinons avec les enfants, on ne le dira jamais assez, mais la transmission, ça se passe aussi évidemment en famille, profitons des enfants. Et puis c'est vrai, on l'entend hein, sur nos marchés, la courge butternut revient en force, c'est un beau signe que nous sommes entrés dans l'automne. Une belle courge butternut, juste coupée en deux, comme ça qu'on va faire rôtir au four. On peut mettre une farce par exemple végétarienne avec des lentilles à l'intérieur, du chèvre frais et des aromates, ça c'est très bon, il y a une densité dans la courge.
Ah bah moi j'adore ça moi, mais ça me donne très très faim là tout d'un coup, parce que j'aime bien quand on fait rôtir la courge aussi, quand elle a ce petit goût un petit peu grillé, caramélisé, qui n'est pas si facile que ça à obtenir. Moi je le rate une fois sur deux, donc si vous avez un truc, vous me le dites.
Et oui, on le redit à propos du potimarron, on ne l'épluche pas le potimarron, on le rôtit avec la peau effectivement, et c'est ce qui va donner ce petit côté grillé dont vous parliez aussi Ophélie.
Europe 1, la table des bons vivants, Laurent Mariotte.
J'ai trop mangé de croque-moi la peau.
Ah oui, on en croque noir ou lait, tablette ou ganache. Les Français sont dingues de chocolat. Chaque année, nous en mangeons chacun 7 kilos. Olivia Ruiz, un petit peu plus, m'a-t-elle dit quand elle est venue dans cette émission. Ce week-end, le chocolat fait salon à Paris. C'est la 26e édition. Est-ce que vous y avez déjà mis les pieds, tiens, Ophélie et Yves? Ophélie?
Moi, une fois. Et j'ai trouvé ça bien, mais j'avais chaud. Je me souviens que j'avais très très chaud tout le temps et c'est j'avais vrai. Peur que le chocolat me fonde entre les doigts, j'osais rien prendre.
C'est vrai qu'il y a du monde et qu'il fait chaud. Yves?
Alors je vais être honnête, non, moi jamais. Jamais, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde et malheureusement, je trouve qu'il y a toujours trop d'industriels par rapport aux artisans.
Alors ça change un petit peu cette année, je suis d'accord avec vous. Ah, il y a mieux. Beaucoup de chocolatiers industriels, mais là il y a 50 nouveaux artisans qui débarquent sur les 150 exposants. Donc ils essayent de rééquilibrer un petit peu parce que c'est vrai que c'était un petit peu la foire du chocolat industriel, on va se dire la vérité. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet du chocolat éthique et durable, on va faire une dégustation, les amis, avec trois chocolats que nous avons devant nous. Nous avons un chocolat de la maison Asna, artisan chocolatier à Bordeaux.
Il est bon.
Grand Sail comme navigation à Morlaix et la maison Pralus à Roanne. Donc goûtez-les. Il y a de la ganache, il y a du chocolat de couverture, il y en a un qui est praliné. Est-ce que vous pouvez me dire quels sont les points communs?
Moi j'en ai un. Hein.
Dites-moi.
Bah, c'est qu'elle a pas assez. Hein.
Vous avez tout mangé.
Tout mangé. Elle a pas assez.
Non, moi je sais. Ils sont tous bons. Ils sont tous super bons.
Ils sont bons. Ce sont en fait des chocolats respectueux des hommes et de la planète. Hein, c'est ce que je vous disais. On va consacrer cette partie au chocolat éthique et durable. Et on va vous aider à reconnaître un bon chocolat dans tous les sens du terme. Et on part de loin, Ophélie.
Mais oui, en fait, ce constat fait tomber de sa chaise. Il y a une ONG britannique qui s'appelle Anti-Slavery International, qui a fait un constat. 2 millions d'enfants travaillent dans les plantations de cacao. Et même pour les adultes, le salaire est en baisse. En Côte d'Ivoire, qui est le premier producteur mondial, hein, le prix d'achat du cacao aux planteurs a baissé de 17,5%. Donc il faut absolument que les producteurs soient d'abord mieux valorisés et ensuite mieux rémunérés, et qu'il y ait vraiment une surveillance contre le travail des enfants.
Et il est question de déforestation aussi. J'ai appris ça en préparant l'émission. En plus, c'est vrai que derrière l'huile de palme et le soja, le cacao, la culture des fèves de cacao est responsable d'une grande partie de la déforestation.
Et oui, c'est la troisième cause de déforestation. Fou. C'est quand même incroyable parce que plus la demande augmente et plus on déforeste.
Qu'on se le dise, on peut déjà manger du chocolat équitable. Il y a des labels hein, comme Max Evlar, Faye for Life, le symbole des producteurs paysans. Il faut aussi se renseigner hein, auprès des artisans pour savoir comment ils travaillent. C'est pas toujours écrit sur les produits. Hein.
Ouais, mais il faut considérer que le chocolat, c'est comme du cochon, comme du veau, comme du bœuf. Quand on va chez le boucher, on en face à nous un artisan, on doit lui poser des questions. Il doit être apte à répondre d'où viennent les produits, comment ils sont réalisés et comment ils mettent en place justement cette chaîne équitable pour l'ensemble de la profession.
Et on choisit du pur beurre de cacao, évidemment, hein, pour pas qu'il y ait d'additifs ou de cochonneries à l'intérieur. Alors l'artisan qui travaille le cacao, vous pensez bien, est essentiel. Et c'est ce que pense notre camarade Jean-Luc Petit-Renaud. Il va nous en parler, il en croque pour la tablette aussi. Bien le bonjour l'ami Jean-Luc.
Bonjour les artistes du week-end, chaud, chaud, chaud,
chocolat.
Je vous emmène battre le pavé bien sûr au chocolat de la ville de Clermont-Ferrand pour trouver un grand chocolatier qui est la chocolaterie Vieillard. Sachez que c'est depuis la Révolution que l'on fait le chocolat dans cette chocolaterie. Je l'ai connu là, dans un hôtel particulier vers la place de Jaude, vers la cathédrale de Clermont, et où on fabriquait à l'étage, le laboratoire était à l'étage au-dessus de la boutique. Et je me souviens de croiser tous ces employés en train de faire couler le chocolat, la ganache absolument magnifique, et de griffer le dessus du chocolat avec une petite fourchette qui ressemblait à une fourchette pour piquer les escargots, pour faire un tout petit dessin. Et en plus de ça, cette famille, depuis des lustres, achète vraiment les chocolats, les fèves de cacao auprès de petits artisans, de petits planteurs. Et ils ne discutent pas le prix. Mais bien sûr, il y en a bien d'autres en dehors de cette chocolaterie vieillard. Choisissez la fierté de ces beaux artisans qui affichent de très beaux chocolats dans toutes les villes et villages et petites villes de province.
Mais oui, faisons salon pour le chocolat. Vous avez raison, Jean-Luc Petit-Renaud, dans toute la France, en allant rendre visite à son artisan chocolatier. Il parlait du pavé tout au début, Jean-Luc Petit-Renaud. Petit clin d'œil à la Maison Chaudin, chocolatier historique à Paris.
Ouais, exceptionnel.
Qui fait un pavé de chocolat exceptionnel. C'est une sorte de truffe en petit pavé. C'est à tomber, cette histoire-là, la Maison Chaudin. Ophélie, tiens, à propos des petits artisans,
oui.
Il y a une association Bean to Bar en France. Hein. Bean to Bar, ça veut dire de la fève à la tablette.
C'est ça. Bean, c'est la fève de cacao et c'est l'idée, effectivement, de travailler à 100% toute la tablette. Donc, ils travaillent avec des fèves de cacao de micro-plantation, ce qui assure des revenus complémentaires aux producteurs en cas de problème sur leur récolte. Et ils mettent en place des projets sociaux comme des écoles, par exemple. Et l'artisan chocolatière de Bordeaux, Asna, dont on vient de goûter un chocolat, en fait partie.
Il y a aussi le transport qui est problématique.
Hein. Oui, parce que quand on parle d'écologie, il y a toujours, quand c'est des produits qui viennent de l'autre bout de la planète, il y a toujours la problématique du transport. Et ils arrivent à trouver des solutions. Par exemple, il y a le chocolat qu'on a dégusté, la marque Graines de Sel, qui lui utilise des voiliers cargo. Alors c'est marrant parce que c'est des Français qui traversent l'Atlantique.
Oui, c'est deux frangins.
Deux frangins, ouais. Ils mettent du vin. Il dit, comme ça, ils partent pas vide.
Ils partent pas vide.
Ils transportent du vin de l'autre côté de l'Atlantique.
À New York.
Ils vont à New York. Après, ils descendent sur les régions des cacao et ils reviennent nous voir avec les fèves de cacao. Je trouve que c'est quelque chose qui est intelligent, voilà, et surtout qui est équitable et écologique.
Et ils rapportent du café vert aussi.
11h30 sur Europe 1, Laurent Mariotte vous accueille à la table des bons vivants.
Eau minérale, eau de source, eau filtrée, indispensable à la vie. Nous en sommes d'ailleurs constitués à 60%. L'eau est souvent la grande oubliée à table comme en cuisine. Alors au fait, chers amis, quelle différence entre une eau de source et une eau minérale? Pour que ce soit clair comme de l'eau de roche, nous consacrons notre dossier à cette boisson 100% naturelle. Et petit clin d'œil, il va nous dire si c'est la première fois ou pas, mais je crois que oui. Pour en parler, nous avons invité le meilleur sommelier du monde, 1992, Philippe Forbrac. Bonjour Philippe.
Bonjour Laurent, bonjour. Bonjour à tous.
Bonjour. Bonjour.
Merci d'être là.
Mais c'est un bonheur. Et c'est effectivement la première fois que je suis invité spécifiquement pour parler de l'eau.
Mais vous avez fait l'émission pour l'eau minérale aussi. C'est pour ça que je vous ai invité.
Absolument. Merci de le rappeler, effectivement. Et ce qui est intéressant, à mon avis, de dire aussi, c'est que le métier de sommelier, ce n'est pas qu'un métier du vin. C'est un métier qui concerne toutes les boissons.
Mais bien
sûr.
Nous
sommes responsables, et dans les études de sommelier, comme dans les concours de sommelier, et j'en ai gagné un certain nombre, et j'en fais passer aujourd'hui un certain nombre aussi, on prépare des questions sur l'eau, effectivement, mais aussi sur le thé, le café, les cidres, les bières,
exactement.
Les cocktails,
les digestifs,
les apéritifs.
Il faut penser aux gens qui ne boivent pas d'alcool.
Le saké, etc.
Aussi.
Et y compris les gens qui ne boivent pas d'alcool, ce qui est effectivement aujourd'hui assez fréquent que les gens osent le dire. En tout cas, à table,
bien
souvent,
sûr.
Il y a quelqu'un, moi je ne bois pas, mais on va faire plaisir quand même.
Mais le sommelier fait un effort.
Mais bien entendu.
Et vous venez nous voir aussi avec un très beau livre, Accord Vins Aimés. Il vient d'avoir un prix ce livre, hein, d'ailleurs aux éditions EPA. Magnifique livre avec des recettes et puis ces fameux accords, parce qu'on est toujours un petit peu coincé hein, quand il faut sortir une bouteille.
C'est vrai. Mais... Et en plus, ce livre part du vin, en tout cas de la boisson, parce que je ne parle pas que du vin dans le livre, vers un mets, c'est-à-dire le cheminement, j'allais dire gustatif, émotionnel, quasi évident, mais aussi technique, d'une boisson vers un plat finalement. Et c'est ça l'idée du livre, et effectivement, merci de le signaler, il vient de recevoir le prix de l'OIV, l'Organisation internationale du vin, qui remet une douzaine de prix par an, à des ouvrages au niveau international, donc je suis effectivement très très fier qu'il y ait un ouvrage français qui ait gagné,
bravo.
Et que ça soit dans
Cocorico.
La catégorie gastronomie, le mien.
Alors revenons à notre histoire d'eau, il n'y a pas une eau, mais il y a des eaux déjà, hein, on peut dire, Philippe Forbrac.
Oui, il y a différentes catégories d'eau, la plus célèbre, parce que c'est dans l'histoire celle qui nous rappelle effectivement des souvenirs très, très anciens, puisque déjà on parle de l'eau minérale d'aujourd'hui, on a l'impression qu'on a créé ça il y a quelques dizaines d'années. Mais que nenni, ça existe depuis très longtemps. L'eau minérale, les sources thermales, etc. Déjà à l'époque grecque, romaine, égyptienne, c'était quelque chose qui avait dont les vertus avaient déjà été mises en valeur. Donc c'est très ancien. Il y a aujourd'hui environ 80 sources d'eau minérale référencées en France. Quand je dis référencées, ça correspond à un cahier des charges législatif très précis. Beaucoup ont été reconnus à la fois d'utilité publique, mais aussi d'utilité médicale. Et ça, depuis très longtemps, et d'une façon écrite avec des décrets, plutôt à la fin du 19e siècle.
C'est vrai, mais je pense à l'eau épar, on va en parler dans un instant. Mais les nouveaux parents qui nous écoutent savent que quand le bébé a des petits problèmes de constipation, qu'est-ce qu'on lui donne ?
De l'épar.
De l'épar.
Pas que le bébé.
Et ça part.
Et pas que le bébé.
Pas que le bébé, Laurent.
Pas que le bébé. C'est vrai. Alors, on a souvent du mal à faire la différence entre l'eau minérale et l'eau de source. Philippe Forbrac, elles se vendent toutes les deux en bouteille. Pour faire simple et que ce soit clair, quelles sont les différences, vous diriez ?
Alors, une eau minérale correspond à un cahier des charges assez précis. D'abord, elle doit être stable dans sa composition, ce qui n'est pas le cas de source.
Donc stable, déjà, en minéraux.
Stable en minéraux. Et dans sa composition générale, elle ne subit aucun traitement chimique.
Ouais.
D'accord ? Le bassin de rétention est extrêmement bien délimité. La mise en bouteille doit avoir lieu sur place, directement à la source, sans aucune manipulation. Et puis elle doit bénéficier effectivement, et c'est ça la dimension intéressante médicinale depuis l'origine, de bénéficier de spécificités particulières. Étudier pour donner, effectivement, vous citiez l'exemple des bébés et de la constipation, la digestion avec certaines eaux effervescentes, je ne sais pas, Châtel-Lon, pour en citer une par exemple, qui a ces vertus-là reconnues.
Oui, très bien.
Il y a effectivement donc une implication, en tout cas une dimension médicinale qui participe pas seulement peut-être à la médecine, mais au bien-être.
Alors ça, ce sont les eaux minérales et les eaux de source.
Alors les eaux de source,
elles ne sont pas stables en minéraux.
Elles
ne
sont pas stables en minéraux, exactement. Elles sont toujours d'origine souterraine, parce qu'il y a des eaux de surface, on va y revenir dans un instant.
C'est vrai, ouais.
Mais là, ce sont toujours des eaux souterraines également pour les eaux de source. Par contre, elles n'ont pas effectivement une instabilité. Elles sont potables au moment de la mise en bouteille. Heureusement, vous allez me dire, c'est la moindre des choses. Mais la différence entre les deux, c'est surtout qu'elles n'ont pas c'est l'instabilité qui fait qu'une source, effectivement, quand on n'a pas, on peut pas avoir de garantie en même temps historique.
L'eau de source reçoit un traitement chimique, alors ?
Non, pas nécessairement. Elles sont en général tirées directement. La seule différence, effectivement, c'est l'instabilité qui fait que... Voilà. Et puis en même temps, elles correspondent effectivement à une déclaration spécifique dont bénéficient les eaux minérales naturelles et dont bénéficient pas effectivement les eaux de source.
Mais les traitements sont tolérés sur certaines eaux de source, à contrario des eaux minérales. Et je pense par exemple à la cristalline.
C'est absolument interdit pour les eaux minérales.
Pour les eaux minérales, on n'y touche pas.
Pour les eaux de source, effectivement, c'est en général pas de traitement. Mais s'il y a besoin,
ils ont le droit d'utiliser.
Cristalline, par exemple, qui est une autre source très accessible, qu'on voit partout. Il y a plusieurs sources, en fait. Ce n'est pas une seule.
Un assemblage d'autres sources.
Oui, et on fait de la cristalline à l'étranger aussi. Il y a une cristalline et une eau extrêmement célèbre au Brésil, par exemple.
C'est une marque qui regroupe des sources locales.
Exactement, tout à fait.
Est-ce qu'on peut déguster l'eau comme du vin ? Vous parliez de l'importance pour un sommelier de s'y connaître en eau et d'accompagner les clients avec les eaux. Est-ce qu'on peut déguster une eau comme du vin ? Là, on en a trois devant nous, tiens, par exemple. Est-ce qu'on peut faire un comparatif ?
Alors, oui, on peut déguster une eau comme du vin parce qu'il y a vraiment des structures différentes. D'ailleurs, les extraits secs, quand on fait des analyses, sont très différents. Donc, en termes de goût, en termes de longueur.
Qu'est-ce que vous appelez les extraits secs ?
C'est-à-dire ce qui reste quand on a finalement tout évaporé. Donc, il n'y a pas grand-chose au niveau de l'eau. Mais néanmoins, les minéraux se déposent et la concentration.
Zinc, sodium.
Magnésium, etc. Et donc les extraits secs sont différents. Les extraits secs, y compris dans le vin ou comme dans la nourriture, donnent effectivement la texture et surtout la longueur effectivement gustative.
Les nutriments de l'eau, quoi.
Absolument. Et donc du coup, à l'œil, il n'y a pas grand-chose de différence.
On a une tonon devant nous. Une épar et une Contrex Séville.
Exactement. Une tonon, donc bassin alpin, puisque nous sommes en Haute-Savoie. Contrex, comme épar d'ailleurs, bassin vosgien à côté de Vittel.
Absolument.
Une région qui vous est chère, mon cher Laurent.
Oui, voilà, côte à côte.
Je sais que.
Je suis de là-bas.
D'Épinal, je crois.
Ouais, je suis d'Épinal, voilà. Bravo.
C'est pas loin.
C'est pas loin. Ils font un super boulot parce qu'ils ont fait des accords avec les paysans pour que, évidemment, les paysans ne traitent pas en surface pour que les nappes phréatiques et les nappes souterraines ne soient pas polluées.
Absolument. Ouais. Ça commence par là, bien entendu. Alors, donc, au niveau gustatif.
La tonon, elle est. Je sais pas quoi dire, mais elle est bonne, elle est claire, elle désaltère.
Je suis très surpris que vous disiez ça.
elle est franche, fraîche et équilibrée.
Alors l'épar, dis donc.
Donc il n'y a pas de goût spécifique, juste de donner
elle est très pure,
ce côté cristallin.
C'est
exactement,
ça.
Ce côté cristallin est plutôt aérien.
Elle n'accroche pas du tout sur la langue, contrairement aux autres.
Exactement. Alors si on goûte je vais peut-être finir par l'épar.
Je la fais tourner en bouche, l'épar.
Si on goûte la Contrex.
La Contrex est toujours un peu plus lourde, moi, je trouve. C'est une eau un petit peu plus costaud.
Il y a une densité, vous voyez, la langue, tout de suite la langue, on a une sorte de poids sur la langue.
C'est ça.
Particulier. Ça, c'est des eaux qui sont effectivement assez minéralisées et la Contrex, c'est un très bon exemple. Et quant à l'épar, il faut être dans des conditions particulières.
Il faut avoir besoin de la boire.
Voilà, si on l'a vu, parce qu'elle n'est pas nécessairement bienvenue à table.
Enfin, oui, c'est ça.
C'est pas celle à laquelle on pense.
Elle n'est presque pas bienvenue en bouche, même.
Pas métallique, mais il y a une espèce de charge au niveau du palais.
Absolument. Hein, encore plus dense que la contexte.
Il n'y a pas besoin d'être sommelier, en fait, pour apprécier et parler du goût de l'eau et de ce qu'on aime. Moi, quand j'interroge les gens autour de moi, il y a l'équipe Vittel et il y a l'équipe Evian. Moi, je fais clairement partie du clan Evian. Mon frère fait clairement partie du clan Vittel.
Enfin, vous avez raison,
on ne se partage pas les eaux. Et quand je demande autour de moi, tout le monde a son eau préférée et l'eau qui ne supporte pas
de boire. Et la Volvic aussi a ses adeptes.
Ah, moi, j'adore la Volvic.
Bien entendu. Et ce que je dis souvent, c'est que, bien sûr, on a des goûts, mais il faut varier les apports. Et donc, s'habituer à une eau, ce n'est pas nécessairement très intéressant pour la santé, en tout cas.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Comment elle est, votre eau des viands? Elle est très fraîche. Ah, bon. Et votre eau Perrier, comment est-elle?
Elle est bien aussi.
Elle est bien. Alors, écoutez, vous me donnerez de l'eau Perrier tiède, mais peu pétillante.
Elles sont comment, vos bulles? Elles sont petites, elles sont fines, elles sont moyennes. Louis de Funès, en Monsieur Septime, dans le grand restaurant, on parle des eaux ce samedi matin à la table des bons vivants avec Philippe Forbrac, meilleur ouvrier de France. Et d'ailleurs, vous êtes...
Meilleur ouvrier de France, honoris causa, exactement.
Et vous êtes également organisateur du concours Meilleur ouvrier de France, Sommellerie.
Absolument, tout à fait. Et restaurateur à Paris, le bistrot du sommelier.
Et
puis je suis aussi l'organisateur, parce que je suis aussi président de l'Union de la Sommellerie française. Et nous organisons le prochain concours de meilleur sommelier du monde qui aura lieu Cocorico en France, à Paris.
Ah bah voilà.
C'était assez pratique. Ça sera le 12 février 2023.
2023.
C'est pas aujourd'hui, mais on y travaille.
Mais on se réjouit.
Ça se prépare dès maintenant.
Pour ce beau concours mondial de la sommellerie.
Je voudrais qu'on parle, avant de parler des eaux pétillantes, qu'on parle des eaux filtrées, qu'on voit de plus en plus dans les restaurants. On en voit des filtrées plates, on en voit des filtrées pétillantes.
Bien sûr.
Un avis sur la question, c'est des eaux du robinet qu'on a filtrées, tout simplement.
Oui, déjà l'eau du robinet, elle a une définition aussi légale. Hein.
Oui.
Elle est captée, elle peut venir soit de sources, soit d'eau de surface, c'est-à-dire les lacs, les rivières, les fleuves, par exemple.
Oui, il y a des villages partout en France où on a des eaux de source.
Absolument. Et elle est traitée, cette eau, pour la rendre potable. Donc elle est traitée d'une façon chimique pour pouvoir faire en sorte qu'elle soit potable et, entre guillemets, la plus stable possible. Souvent, d'ailleurs, quand on tire du robinet, dans la plupart des endroits, c'est chloré. Et c'est un peu repoussant.
Bah, bien sûr.
Ça sent pas bon, c'est de robinet. Vous attendez un peu. Il ne faut pas attendre 24 heures de l'eau à l'air dans un verre, parce que là, pour le coup, il peut y avoir d'autres problèmes.
Bactériens,
exactement. Ouais. Mais si vous attendez quelques minutes, finalement, le chlore, en faisant tourner, alors des fois, on dit, mais c'est pas du vin que tu as dans du verre, c'est de l'eau, on fait tourner comme ça. Mais c'est juste pour faire disparaître ce chlore qui, effectivement, s'évapore rapidement.
Alors, les eaux filtrées...
Et les eaux filtrées, de plus en plus dans les restaurants, on trouve effectivement ces eaux filtrées. C'est plus ni moins l'eau du robinet qui subit un traitement pour enlever les motelours s'il y en a besoin, le chlore si nécessaire, etc. et la rendre acceptable au niveau du palais.
Voilà. Pourquoi pas, mais ce qui est moins acceptable, c'est quand elles sont payantes, moi je trouve, ces eaux-là.
Oui, en même temps, le système coûte cher. Donc il y a un système. Ceux qui vendent le système vendent au litre. C'est plus vous l'utilisez, au plus vous payez une taxe. Donc ce n'est pas non plus négligeable en matière de coût pour le restaurateur.
Moi j'ai un point de vue très précis là-dessus. C'est vrai que déjà quand on sert une carafe d'eau dans un restaurant, je pense qu'il faut être attentionné autant à l'eau quand on sert une carafe qui est gratuite qu'à ma carotte, à mon morceau de bœuf ou à mon morceau de poisson que je vais mettre dans l'assiette. Donc je pense qu'il faut la filtrer impérativement pour enlever ce chlore. La vendre, moi je pense que c'est une hérésie. Voilà, parce que ça reste de l'eau de robinet, même si c'est un petit coût, c'est vrai, d'abonnement. Mais on n'est pas là pour gagner de l'argent sur
l'eau. Service, quoi.
C'est du service. Et puis après, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a bon nombre de restaurants et beaucoup de restaurants gastronomiques qui maintenant ont enlevé énormément les eaux minérales françaises et de nos sources françaises de leur carte pour faire leur eau filtrée. Moi, je leur dis, c'est bien de tout ramener à soi, mais qu'est-ce qu'on va faire de nos sources de France?
C'est ça, mais
donc, on est quand même des représentants, voilà, je le redis, des éleveurs, des vignerons et des sources. Donc c'est notre devoir d'avoir conservé quand même tous ces eaux minérales françaises à nos cartes.
Et on le disait avec Philippe Forbrac juste avant la pause, il y a une diversité dans ces eaux de source, dans ces eaux minérales. Est-ce qu'en tant que sommelier, vous voyez des clients qui hésitent justement entre deux eaux quand ils ne boivent que de l'eau?
Oui, souvent d'ailleurs pour les eaux pétillantes, parce que pour les eaux plates, ils ont une idée assez arrêtée, on en parlait tout à l'heure. Mais pour les eaux pétillantes, vous avez de la Châteldon, la Bulle Fine, je préfère du Perrier aujourd'hui parce que j'ai besoin d'un coup de boost.
C'est ça.
Est-ce que vous n'avez pas une eau originale, on parlait tout à l'heure, de l'Ardèche, des Cévennes, etc., comme la Valse ou autre, ou l'Orezza quand on s'intéresse à la Corse, parce qu'on y est allé, on nous rappelle. Il y a aussi des souvenirs.
C'est ça.
Il y a aussi des souvenirs émotionnels avec l'eau.
Mais bien sûr, parce que puis en plus, c'est quelque chose qui a traversé les roches, c'est quelque chose qui vient du monde souterrain, et donc il y a un petit côté patrimonial dans l'eau.
Mais absolument, cette filtration de géologique qui fait appel à nos racines, c'est le cas de le dire, mais aussi au climat, puisque c'est un reflet du climat, et du temps. parce que c'est très très long pour que ça puisse passer effectivement à travers de toutes ces couches successives.
Je pense que ça va aller plus loin aussi, il y a la provenance. Alors moi qui suis du Béarn, j'ai la chance d'avoir au pied des Pyrénées de l'Augeux, l'Augeux des Pyrénées, je ne me vois pas faire autre chose que de l'Augeux. Mais c'est mon identité personnelle.
Eh bien, portons l'attention sur deux eaux qui se font beaucoup de concurrence dans le monde des pétillantes. C'est la Badoit et la Perrier.
Absolument.
Hein, on a un verre de Badoit et un verre de Perrier. On les sert glacés ou on les sert tempérés, tiens, les eaux?
Moi, personnellement, je préfère tempérer.
Ouais, moi aussi.
À titre personnel, je trouve que c'est moins agressif. Ouais. Après, globalement, la tendance est quand même, historiquement, de la mettre au frais et de la servir fraîche.
Je pense aussi que ça va dépendre du climat extérieur.
Voilà,
exactement. Il y a des moments donnés, on les préfère tempérer. En ce moment, c'est vrai qu'on va les adorer tempérer, mais en plein été... Un peu de rafraîchissement, ça fait du bien aussi.
Voilà. Alors, quelle différence entre la Badoit et la Perrier? Là, je viens de la faire rouler, la Badoit et la Perrier. C'est vrai qu'il y a un côté, comme vous dites, plus tonique, peut-être plus agressif dans la Perrier au niveau de la bulle.
Oui, c'est sa spécificité. La bulle est quand même assez dense.
Naturelle, la bulle?
Naturelle, regazéifiée avec le gaz naturel.
Elle est piquante.
Donc, et il y a ce côté effectivement piquant. Donc, on est du côté de Vergès, dans le Gard, donc vraiment au sud de la France. Alors que Badoit, on est du côté de Saint-Galmier, dans le Forêt, pas loin de Saint-Étienne. Voilà. Dans des terroirs qui sont aussi différents, puisqu'il y a un côté, comme en Auvergne d'ailleurs, on a des couches plutôt volcaniques. Donc ça donne effectivement aussi, même dans l'eau, des notes légèrement plus particulières, un peu fumées, etc. Parfois que l'on peut
percevoir. Il y a des nuances dans l'eau, c'est amusant.
Mais c'est intéressant. Et donc la grande différence pour les eaux à bulles, c'est la densité de la bulle finalement. Et la salinité. C'est les deux éléments. Dans la Badoit, on a une bulle plus fine, mais on a un peu plus de salinité. On a un taux de sodium notamment qui est un peu plus marqué. Dans la Perrier, on a une bulle plus éclatante et un peu plus de fraîcheur. Donc selon selon l'envie de vivre, même selon les plats, parce que moi j'amuse aussi à faire des associations. Si les gens veulent, j'allais dire, démarrer à l'apéro avec une eau, Perrier va très bien. Au contraire, ça égaye le palais, on va servir des petits pickles, par exemple, de légumes, c'est juste parfait avec.
Et en cuisine, l'eau joue un rôle aussi. Alors là, pas les pétillantes, à part pour les carottes Vichy, quand on veut utiliser de l'eau de Vichy, mais sinon, l'eau joue un rôle. Il faut une bonne eau pour faire un bon potage, disait Paul Bocuse déjà il y a très longtemps. Hein.
Non, mais bien entendu.
C'est sans doute l'un des ingrédients qu'on utilise le plus en cuisine. Et c'est vrai que si vous n'avez pas, moi je vois l'eau du robinet qu'on utilise, il faut impérativement la filtrer pour enlever ce chlore, parce que c'est très simple. Si vous faites une blanquette de veau, si vous ne voulez pas trop la lier, donc vous allez faire réduire votre bouillon pour le concentrer. Et quand vous réduisez le bouillon, qui c'est de l'eau, obligatoirement, vous concentrez le chlore.
Merci Philippe Forbrac d'être venu ici à cette table des bons vivants. Je signale votre livre « Accord vins aimés » chez EPA, qui vient de recevoir le prix de l'Organisation internationale du vin, catégorie gastronomie. Un très beau livre. Et vous parlez très bien des eaux. Bravo.
Merci beaucoup.
On vous fera venir pour les sodas la prochaine fois.
Le vin, c'est une solution hydroalcoolique.
Oui, très bien. Bon, on va mettre partout alors.
11h30 sur Europe 1. Laurent Mariotte vous accueille à la table des bons vivants.
C'est l'heure d'accueillir notre invité, comédien, réalisateur, scénariste, animateur, producteur et maintenant passeur d'histoire. C'est vrai que sa curiosité est comme son appétit insatiable. Bruno Solo est notre invité. Bonjour Bruno.
Bonjour.
Merci d'être là.
Ah ben, c'est un plaisir.
Vous venez nous voir, vous avez votre rond de serviette, c'est pas la première fois que vous venez nous voir. Mais alors vous venez nous voir avec un nouveau bébé. Les visiteurs d'histoire, quand l'histoire de France s'invite chez moi, un très beau livre paru aux éditions du Rocher, un livre historique, un livre voyageur, et vous avez eu la bonne idée d'imaginer un dîner extraordinaire, c'est le cas de le dire.
Extravagant.
Extravagant, avec 11 figures historiques. Il y a Clovis, il y a le bon Saint-Éloi, il y a le chevalier Déon, il y a Louise Michel, il y a Georges Mandel, et ils arrivent tous les uns après les autres avec vous à cette table. C'est une belle idée, ça.
Oui, en fait, l'idée, en fait, c'est les éditions du Rocher qui sont venues me voir parce que depuis 5 ans, je présente des émissions d'histoire sur France 5. Je raconte comment l'Europe s'est construite depuis... La guerre des trônes, la véritable guerre des trônes depuis la guerre de 100 ans. Et là, la 5e saison, on est à la mort de Louis XIV, la Régence et le début du règne de Louis XV. Et parce que je faisais cette émission, ils sont venus me voir en me demandant si j'avais pas envie de raconter à ma manière l'histoire, parce que j'ai un ton un peu singulier dans l'émission. Et pendant un an, rechercher les personnages dont j'avais envie de parler. Et je suis arrivé à une petite liste, comme ça, de 11 personnages qui, ou parce qu'ils avaient traversé ma vie, ou parce qu'ils étaient, par exemple, comme Éloi, qui a construit le quartier du Marais dans lequel j'ai grandi, dans lequel j'ai, à Paris, le quartier du Marais à Paris, dans lequel j'ai grandi, dans lequel j'ai fait mes études, des personnages passionnants comme, qui ont marqué l'existence de mon papa, comme Louise Michel, comme Georges Mandel, que j'ai failli interpréter, comme le Cavalier de la Salle, parce que mon vrai nom, c'est La Salle, comme Christine de Pizan, parce que ma maman était une militante féministe, et c'est la première féministe identifiée de l'histoire en France, en 1380. Donc à chaque fois, il fallait que ces personnages aient un rapport avec ma toute petite histoire qui, eux, avaient marqué la grande. Et pendant le confinement, m'est venu, effectivement, j'avais le thème, je savais que j'allais parler et échanger avec eux, parce que c'est presque une pièce de théâtre.
Ah bah oui,
c'est un dialogue.
Parce que vous parlez avec eux, oui. Vous les engueulez, ils vous reprennent.
Voilà. Et pendant le confinement, m'est venue l'idée du repas idéal, sans geste barrière, puisque quand vous dînez avec des morts, a priori, il n'y a pas ce souci-là. Et oui. Puis il n'y a pas de vaisselle, surtout.
C'est pas la table des bons vivants, c'est la table des bons morts vivants.
Voilà, bons morts vivants. Des vivants, des morts, mais bien vivants. En fait.
Les visiteurs d'histoire de Bruno Solo aux éditions du Rocher.
Évidemment, j'ai travaillé avec des historiens et des chercheurs. Je n'ai pas la prétention d'être chercheur d'historien, donc j'ai travaillé avec... C'est très rigoureux, c'est très érudit, c'est très documenté.
Très pointu.
Mais une fois qu'ils m'ont donné tout ce matériau, moi je me suis senti libre de raconter l'histoire comme j'avais envie de la raconter.
Et vous mettez de la légèreté justement avec, avec ces dialogues, ces engueulades, ils vous reprennent, vous les reprenez par rapport à notre époque aussi, donc c'est assez rigolo parce qu'il y a des petits anachronismes aussi par moment. Vous connaissez le rituel de l'émission, Bruno Solo. Quel est votre goût de la semaine, cher ami?
Eh bien, je suis en tournée théâtrale en ce moment avec Julien Boisselier et Mélanie Page dans une pièce qui s'appelle 10 ans après de Fuenchino. Si on tourne à travers toute la France après l'avoir joué
Je vous ai vu à Paris, moi, absolument.
Voilà, bon, elle s'est arrêtée, elle a repris, enfin, comme tout le monde.
Mais belle tournée, là.
Et là, on est sur une tournée. Il y a quelques jours, nous jouions à Saint-Étienne. Et à l'issue de la représentation, alors que d'habitude, on ne mange pas, nous. Parce que tout simplement, après les représentations, il est tard, donc vous mangez tard et vous vous couchez là-dessus et c'est pas très bon, donc on ne mange pas. On mange le midi, mais on ne mange pas le soir. Et là, quand même, on nous a dit, vous ne pouvez pas passer à côté de la table de l'Opéra de Saint-Étienne, qui s'appelle donc Le Cercle, qui est sous le théâtre.
Au pied du
théâtre. Et nous sommes allés manger là avec quelques élus et puis l'équipe de la tournée. Et on a découvert un chef qui s'appelle, enfin moi j'ai découvert, hein, parce que d'autres l'ont découvert bien avant moi, sans aucun doute. Il s'appelle Noureddine Hamash et on a mangé dans son restaurant et ça a été une révélation. Justement, il nous a dit, je sais que vous ne voulez pas manger trop lourd, je sais que vous voulez manger léger, etc. Et on a mangé quelque chose, une sorte de cuisine aérienne et extrêmement goûteuse.
Vous vous souvenez du plat?
Oui, alors c'est complexe parce qu'il y avait des carpaccio, notamment de légumes, avec des herbes dessus et très aromatisantes. C'était difficile à identifier, c'était très impressionnant. Tout ce qu'on a mangé était bien vu, bien servi, bien assaisonné, extrêmement léger et en même temps extrêmement nourrissant. Et puis surtout, il y avait une sorte de sensation un peu que le type, lui aussi nous faisait découvrir un petit peu comme nous sommes comédiens. On fait découvrir aux gens une émotion qui est
nouvelle.
Et la cuisine avait... Là, j'ai ressenti très, très fort. Voilà, j'ai ressenti très fort. Je ne savais pas s'il fallait rire ou pleurer sur certains plats. C'était très émouvant. Et on est tous partis de là avec beaucoup de plaisir. Quoi. Voilà.
Et vous me faites ma transition parce qu'on va continuer à parler de plaisir, d'émotion. Et on va remonter aussi le fil de l'histoire. Avec un vrai esthète, avec Yves Candebord, absolument. On va remonter
le temps. Et je connais sa cuisine aussi.
Oui, on l'aime sa cuisine. On va remonter le temps avec vous, Yves, avec trois livres de cuisine historiques, des livres de cuisine qui ne datent pas d'hier, pour s'amuser avec l'histoire qui est chère à Bruno Solo. Des livres qui ne datent pas d'hier, mais qui sont toujours aussi modernes, on pourrait dire.
Hein. Oui, je pense que c'est des livres qui ont marqué la gastronomie française à leur époque, mais qui continuent à la marquer aujourd'hui, ce qui est forcément intéressant. Alors, tout le monde, bien sûr, connaît... Bon, l'Escoffier ou le Krunowski, qui sont des guides assez brutales, en fin de compte, parce que c'est des recettes codifiées, très précises. Et il y a un cuisinier de la même époque, Édouard Nignon, qui a écrit L'éloge de la cuisine française et qui est très littéraire.
Alors, en quoi L'éloge de la cuisine française est un livre moderne, alors?
Écoutez ça. Qu'est-ce que l'art? En général, sinon l'expression vivante, harmonieuse, subtile, de tout ce qu'on peut concevoir de grand, de beau, de sublime. Le cerveau humain. Toute œuvre d'art est déterminée par le milieu intellectuel et moral de son éclosion. La production de l'art culinaire n'échappe pas à la règle. Et notre cuisine nationale, si prisée, si recherchée, se présente incontestablement comme l'expression directe, gracieuse, du tempérament français, de ses attitudes, de précision, dans la conception, dans le raffinement, dans la réalisation, dans la délicatesse du sentiment.
C'est un peu ce que disait Bruno quand il parlait
la délicatesse
de la cuisine
du sentiment. Effectivement, c'est ça que j'ai ressenti là, il y a quelques jours, effectivement, Saint-Étienne. Mais c'est très beau, c'est très moderne comme approche
c'est
de la.
C'est
de
très
la
beau,
cuisine.
Et pourtant, ouais. C'est début de siècle.
Bien sûr.
Et toutes les recettes sont pareilles, elles sont vraiment très bien expliquées. Autant l'escoffier, on a des recettes qui sont codifiées, il faut que ce soit nous, les professionnels, que soyons capables de les comprendre. Tandis que là, on a des recettes historiques qui sont expliquées de façon.
Édouard Nignon, on peut dire à nos auditeurs qu'Édouard Nignon, c'est celui qui a inventé, démocratisé le jus, quoi.
Totalement. Édouard Nignon a rejeté l'espagnol. Ce qu'on appelait la sauce espagnole, c'est les vieux sauces, les vieux fonds. Il a rejeté en disant, je vais faire des essences de veau.
D'accord.
Et surtout, Édouard Nignon aussi est resté franco-français et a eu l'un des plus beaux restaurants de Paris, à face à la Madeleine, le fameux restaurant La Rue.
Alors, un autre livre qui vous est cher, Yves Candebord.
Là, on passe dans les années 90. On fait un petit bond en avant. C'est un livre qui a marqué le cuisinier. C'est le grand livre de Michel Bras. Voilà. C'est le premier à avoir fait un livre d'art. C'est-à-dire qu'il a fait un livre qu'on a sorti de la cuisine, qu'on a déposé sur la table de salon. Il y avait les recettes, mais aussi il présentait
son univers,
sa philosophie. Il mettait en avant l'Aubrac, il mettait en avant les fleurs, il mettait en avant les odeurs, il mettait en avant la culture générale de son pays.
Un livre de chef, comme on dit aujourd'hui.
Chef. Après, beaucoup de chefs ont fait des grands livres, mais Michel Bras était le premier à passer ce cap-là.
Il y a une collection qui vous tient à cœur pour terminer. Il y a d'ailleurs un livre qui était consacré à un de nos grands chefs avec cette collection.
Totalement. Là, c'est la collection qui a marqué, je dirais, ma génération de cuisiniers. C'est la fameuse collection de chez Robert Laffont. La recette originale 2.
Oui, alors, point de suspension.
J'ai eu à la maison celui-ci. Ma maman l'avait, ce livre.
Alors, il y a eu bon nombre de chefs cuisiniers. Alors, bien sûr, on a Alain Chapelle, de par l'introduction qu'il fait dans son livre, qui est exceptionnelle philosophiquement par rapport à notre métier. Les recettes sont assez classiques. Mais pour moi, les années 80 ont été marquées par un génie qu'on connaît tous, c'est Jacques Maximin.
Il nous écoute, on le salue.
Et Jacques Maximin, c'était le. L'empêcheur de tourner en rond. Et il a rendu un hommage à la cuisine de la Méditerranée. Quand je vois aujourd'hui, encore hier soir, je me suis amusé à le feuilleter. Quand je vois les photos, quand je vois les dressages, quand je vois les fonds de recettes, il est encore dans le vrai. Et je crois qu'il a marqué toute une génération de cuisiniers. Jacques, je te remercie.
On le remercie et vous retrouverez les références sur europe1.fr. Et Jacques Maximin a sorti dernièrement une réédition de son beau livre consacré aux légumes. Donc c'est vrai que les légumes cuisinés par Jacques Maximin, vous ne ferez pas d'erreur. Ça vous parle les livres de cuisine, Bruno Solo ?
Oui, parce que ma maman, elle cuisinait pas mal et elle achetait effectivement des livres dont elle sentait qu'il pouvait y apporter une autre manière d'aborder la cuisine. Et j'aimais bien la démarche. Et là, je me souviens du livre de Jacques Maximin. Je me souviens qu'il était dans notre bibliothèque. Et mon papa s'est mis à la cuisine grâce à ces genres de livres.
Ça vulgarisait.
Parce que ça lui permettait de l'aborder, parce qu'il s'y est mis tard sur la cuisine. Mais quand il s'y est mis, c'était grâce à ce genre de livres et non pas à des livres de recettes toutes faites. Effectivement, peut-être un peu clivant, trop technique, etc. Il fallait que ça raconte une histoire. Et dès lors que ça raconte une histoire, on a envie, nous aussi, de la raconter dans l'assiette.
Il faut garder l'imagination.
C'est la phrase d'Alain Chapelle dont on parlait. La cuisine, c'est bien plus que des recettes. Voilà,
bien
c'est
sûr.
Un univers.
Bien sûr.
C'est moins cher dans le marché couvert. Allez,
3 pizzas gratuites à madame dans le melon. Du beau melon, les 4 pour 5 euros.
Europe 1, 11h30, la table des bons vivants, Laurent Bariotte.
Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Nous sommes ensemble jusqu'à 12h30. Depuis 11h, nous sommes là à tabler. Vous retrouverez le début de l'émission en écoutant le podcast sur europe1.fr. Nous revoilà avec notre invité Bruno Solo qui vient nous voir avec les visiteurs d'histoire. Quand l'histoire de France s'invite chez moi, c'est le sous-titre aux éditions du Rocher. Un dîner extravagant, extraordinaire avec 11 personnalités historiques. On le disait, il y a Clovis, il y a le bon Saint-Éloi, Louise Michel, Georges Mandel. Des gens qui vous fascinaient et comme vous le disiez tout à l'heure, qui ont finalement un petit point commun malgré tout quand on recherche avec votre histoire à vous. C'est ça qui est
amusant. Ah oui, absolument. Ça, c'était vraiment la condition sine qua non pour moi. Je n'allais pas parler de personnages qui m'étaient à ce point étrangers. Alors évidemment, de temps en temps, j'ai inventé des liaisons avec eux. Christine de Pizan, je n'ai pas de liaison particulière avec elle, si ce n'est que ma maman, elle n'en connaissait même pas l'existence. Mais quand j'ai découvert ce personnage, je l'ai lié à des discussions que j'ai pu avoir avec ma mère et mon père autour autour justement du féminisme et de la place de la femme dans la société, par exemple.
L'histoire est un éternel recommencement, vous diriez, parce que c'est vrai que vous plongez dans le passé, bah, là, et on voit des choses concernant la guerre de religion, la paix, enfin, voilà, le combat de Louise Michel.
Ou même le Michel L'Hospital, qui a tenté, pendant pleine guerre de religion, de trouver une concorde entre les protestants et les catholiques, dans un moment où, effectivement, aujourd'hui, on se pose des questions sur la manière de gérer la cohabitation entre les religions dans notre pays. Bon, moi qui suis totalement athée, agnostique, donc je peux avoir un regard totalement objectif là-dessus, je ne me sens pas pris par un conflit intérieur vis-à-vis de la religion ou de la religiosité. Mais lui, Michel L'Hospital, il était catholique, mais il a voulu que les protestants puissent exercer leur religion dans un pays où ils étaient systématiquement massacrés et harcelés. Et donc, c'était courageux de le faire dans un pays, dans un moment où systématiquement, c'était les bûchers, c'était l'Inquisition, etc. Donc voilà, je souligne le courage de ces personnages qui sont parfois vertueux et de temps en temps qui sont un petit peu aussi baratineurs. Le cavalier de la salle ou le chevalier Déon, il faut se les cogner dans le dîner.
Chevalier Déon, on a mis 3 jours avant de pouvoir dire c'était un garçon ou une fille.
On l'a su très vite. Il est né coiffé, comme on disait à l'époque. Donc il est né avec un sexe qui était masculin, qui était recouvert. Donc c'était un homme, mais à la fin de sa vie, il a vécu dans les habits d'une femme et dans l'idée qu'il était une femme parce que Louis XVI lui avait interdit de revenir en France, parce qu'il avait été espion pour lui en Angleterre, pour Louis XV en Angleterre, et il est revenu en France sous les habits d'une femme. On lui avait interdit d'être autre chose qu'une femme, donc il est mort dans une pension anglaise avec une dame qui était persuadée de vivre avec une jeune femme, enfin une vieille jeune fille en tout cas, et puis le jour de sa mort, quand elle a fait la toilette mortuaire, elle a découvert un truc auquel elle ne s'attendait pas.
Ça vous vient d'où cette passion pour l'histoire, Bruno Solo ?
Ben, je sais pas, aussi loin que mes souvenirs remontent, j'ai toujours aimé ça quand j'étais à l'école, et puis mon papa aimait beaucoup l'histoire, on en parlait, et j'ai eu la chance d'avoir des professeurs merveilleux, dont un.
Vous le remerciez d'ailleurs, oui.
Je remercie à la fin de mon livre qui s'appelle Monsieur Aidan.
C'est un joli mot, Monsieur Aidan.
Voilà, Monsieur Aidan, oui, pour quelqu'un qui transmet, effectivement, c'est magnifique parce que il apprenait à apprendre à apprendre. C'est ça la transmission aussi. Et Monsieur Aidan, donc, m'a transmis cette passion terrible de l'histoire. Et elle m'est restée. Il n'y a pas un jour sans que, quand je lise quelque chose autour de ces sujets-là. Quoi. Voilà.
Vous avez déjà incarné à la télévision Mendès France, Napoléon. Dans ce livre, les échanges sont truculents. Vous n'avez pas envie de transposer ce dîner sur scène et avec un vrai repas, pour le coup
Alors, manger tous les soirs. Alors déjà que je vous disais que je ne mangeais pas après le théâtre, si je dois manger tous les soirs sur scène, ça va être compliqué, mais je peux m'inventer un dîner imaginaire. Mais c'est vrai que je réfléchis à l'idée de peut-être de faire un seul en scène avec des personnages comme ça.
Ah, vraiment, parce qu'on s'amuse.
C'est vrai, je l'ai conçu un peu comme de manière un peu théâtrale, le livre.
Alors, on est d'humeur historique ce samedi à la table des bons vivants. On vous raconte maintenant la belle histoire de la plus vieille auberge de Paris. Vous avez une idée sur son nom ou pas ?
Non, mais je ne sais pas, justement, parce que j'aime bien l'histoire, je me dis qu'elle est sans aucun doute dans l'un des plus vieux quartiers de Paris, qui est le deuxième ou le troisième arrondissement.
Dans le troisième, c'est l'auberge Nicolas Flamel. Et je vous présente le chef qui est avec nous, Grégory Garimbe. Bonjour Grégory.
Bonjour.
Merci d'être là, c'est très sympa. Vous travaillez avec Alain Géham, qui est,
qui est le gérant.
Le gérant et un chef cuisinier qu'on aime beaucoup, qui a une très belle histoire. Alain Géham, qui a repris cette belle auberge. C'est l'auberge historique de Paris, en fait.
C'est la plus vieille maison de Paris, donc datée de 1407.
Vous avez quel âge ?
J'aurai 35 ans au mois de décembre.
Donc vous êtes un jeune chef et c'est amusant d'avoir le patrimoine comme ça de la plus vieille auberge.
Je m'estime très chanceux, chanceux d'avoir rencontré Alain. Je lui dis souvent, t'es mon ange gardien parce que ce que tu as fait là, en fait, à m'offrir un restaurant, finalement à me donner les clés de son restaurant et me dire, voilà, émancipe-toi et exprime-toi pleinement. C'est exceptionnel. Donc, je suis très chanceux d'avoir une équipe extraordinaire autour de moi.
Et on parle beaucoup de votre cuisine actuellement à Paris. Alors, expliquez-nous et expliquez aux auditeurs.
Moi, je vais la goûter plutôt d'en parler.
À quoi correspond votre cuisine ? Là, vous êtes venu avec un plat de Saint-Jacques magnifique. Alors, déjà, on est dans la saison avec votre cuisine, évidemment.
C'est Saint-Jacques de Bethsaine. C'est les premières Saint-Jacques de mon ami Alain Rigaud. On a les salsifis qui viennent de France.
Les salsifis.
Après il y a un petit condiment avec un peu de cresson en fait, donc c'est juste pour amener un petit peu plus ce côté poivré. Et voilà, c'est ma cuisine, c'est une cuisine gourmande sans superflu,
lisible et identifiable, comme on dit.
Oui, voilà, tout à fait lisible, identifiable.
Et l'endroit est tellement merveilleux, c'est vrai magnifique. Que même d'extérieur, c'est une des plus jolies maisons qui soit à Paris.
C'est extraordinaire.
Avec ses colombages, etc.
Exactement.
Elle est somptueuse, cette maison.
Vous nous régalez là.
Merci.
Le petit cresson, effectivement, qui apporte ce petit piquant et ce petit poivré.
Mais on a un superbe équilibre entre les produits de la mer, la Saint-Jacques, là, que tout le monde connaît. C'est vrai que c'est soyeux et très délicat. Le cresson, cette petite acidité qui relève, et on sait que l'acide, est un exhausteur de goût assez exceptionnel. Et après, ce qui est génial aussi, c'est la rondeur du céleri. Mmh. Voilà, cette petite purée avec le rappel un peu croquant des salsifis. C'est de la grande cuisine. C'est la cuisine traditionnelle, c'est la cuisine française, mais qui est faite de façon, je dirais, contemporaine, ouais, mais qui laisse la part belle.
Et pas de superposition de saveurs superflues, c'est effectivement.
Moi, j'ouvre une petite parenthèse historique, comme ça, ça vous permet de manger tranquillement. Parce qu'il y a deux choses qui m'ont marqué en fait, dans cette auberge donc, qui date de 1407. La première, c'est qu'elle a été construite en pierre calcaire. Et à l'époque, on utilisait cette pierre uniquement pour faire des palais et des églises. Donc ça montrait déjà la volonté de construire une auberge qui marquerait. Et la deuxième, qui est presque antinomique, et c'est ça que je trouve très émouvant, c'est qu'à la base, c'était une œuvre de charité. En échange d'une prière, ça, on retrouve un texte de l'époque qui demandait un paternoster et
un Ave Maria. Deux par jour.
Et en échange, les pauvres de la ville étaient nourris dans cette auberge, blanchis et même logés.
Et
je trouve que c'est très très beau de se dire que la plus vieille auberge, c'était pas pour les riches, c'était pour les pauvres.
Oui, tout à fait. Et Nicolas Flamel, en fait, quand il a fait bâtir cette maison-là, donc, comme vous l'avez dit en fait, à l'époque, donc en 1397, début de la construction, Les 99% des maisons étaient faites en bois. Les pierres calcaires, la pierre était faite vraiment pour... C'était la haute bourgeoisie, en fait, de l'époque. Ils pouvaient se payer ça.
Ou pour les abbayes, effectivement.
Exactement. Ouais. Le clergé. Donc, c'est d'autant plus beau. Moi, à chaque fois... Alors, ils rigolent, les mecs. mais mon équipe, elle rigole. Parce que tous les matins, en fait, vous savez, je vous jure que c'est vrai. Je mets la main, en fait, dessus et je sais pas.
Rien comme si vous imprégniez en fait, de l'histoire.
Il y a une âme.
Génial.
On parlait de transmission avec Bruno Solo.
Ce qui s'est passé en 614 ans d'existence. On est quoi, nous, finalement?
La pierre de la mémoire.
C'est exceptionnel.
C'est sûr.
Saint-Jacques, avec vraiment une poêlée de salsifis, une sauce noisette du Cresson. Chers auditeurs, la recette vous attend dès maintenant sur europe1.fr. Vous pourrez la refaire.
C'est très, très bon.
Et moi, je vais manger chez vous très, très vite.
Et oui, d'une belle auberge, l'auberge Nicolas Flamel à Paris, dans le 3e arrondissement. Merci d'être venu, Nicolas.
Merci à vous.
Et saluez votre brigade et posez la main sur la pierre de notre part.
Hein. Merci beaucoup.
À bientôt et merci d'être venu. Et vive la Saint-Jacques. Une cuisson courte, rapide.
Et les salsifis.
C'est un bonheur. Et les salsifis, voilà. Effectivement, on n'est pas dans le salsifis de la cantine. Là, hein. Vous retrouverez la recette, je vous le dis, sur europe1.fr. Ah bah, ça vous a plu, tiens, Bruno Solo.
Ah oui, oui. C'était difficile de ne pas dire le contraire.
Moi, je confirme.
Ouais, on est d'accord. Bon samedi midi à table avec nous et bonne cuisine si vous êtes en train de la faire. Bon retour du marché pour les autres aussi peut-être. Quand on est parti en retard, ben on revient vers midi et demi. Quoi.
Ouais, on prend son temps aussi, on a le droit de prendre son temps.
Vous avez raison, c'est le week-end, on prend son temps.
C'est un devoir de le prendre.
Absolument.
Son temps.
Bruno Solo est avec nous jusqu'à midi.
L'oisiveté est la mère de toutes les curiosités et
non
pas de tous les vices.
Ben, vous n'avez pas pratiqué l'oisiveté hein, pour votre livre. Les visiteurs d'histoire, il y a du boulot là.
Mais moi je suis un oisif qui n'arrête pas de me bagarrer contre ma vraie nature, qui est celle de ne rien faire. Et donc parce que je sais que si je me laisse aller à cela, je ne fais rien, et ben je bosse beaucoup. Oui.
Alors je le disais, vous avez imaginé ce dîner imaginaire et extravagant avec Clovis, le chevalier Déon, Louise Michel. Alors j'ai remarqué une chose, c'est un dîner, mais on mange très peu, mais on boit en revanche.
Surtout Clovis.
Hein, c'est ça, ah oui, on va en parler avec Ophélie Neyman dans un instant. Oui.
Et je n'ose imaginer le goût du pinard au 5e siècle, ça ne devait pas être terrible. Quand
oui,
même,
c'est hein. ça.
Ça devait être des piquettes.
Ça devait piquer un petit peu. Hein. Alors en parallèle de la sortie de ce livre, on en parlait, on vous retrouve également en tournée sur les planches dans cette pièce très drôle, David Fuenquinos, qui s'appelle 10 ans après. Encore un dîner d'ailleurs.
Oui. Là aussi encore un dîner imaginaire, puisqu'on ne mange rien, puisque la pièce est basée sur une sorte d'idée de l'amour et de la rupture et de l'égoïsme des hommes aussi surtout, voire de leur lâcheté immense. Et donc voilà, on ne mange rien, tout est inventé et voilà. Mais c'est pas plus mal. Hein, c'est pas
belle
plus mal.
Distribution, Mélanie Page et Julien Boisselier avec vous.
Hein,
vous
êtes et mise en scène par Nicolas Briançon.
Exactement. Immense, ouais. Et David Fuenquinos à l'écriture.
Voilà.
Donc il y a du lourd, comme on dit.
C'est un joli attelage, je veux le croire.
C'est ça. Dans votre carrière, il y a un rôle important aussi, on est obligé d'en parler, c'est Hervé Dumont. Votre personnage dans Caméra Café. Vous allez revenir pour un numéro spécial, il paraît ?
Bah oui, parce qu'on a créé la série en 2001, nous sommes donc en 2021, et avec M6, on a convenu qu'on allait faire une spéciale pour les 20 ans, pour la télévision. On ne va pas changer de support, parce qu'après tout, c'est un programme qui a été créé pour la télévision, par la télévision. Donc on va refaire un 90 minutes. Un one shot quoi, qu'on va tourner en janvier-février, qui passera courant 2022. Ce sera donc les 21 ans pour pas faire comme
ça. Mais vous allez devoir subir une formation spéciale parce que les machines à café ont changé depuis.
Mais non, parce qu'on revient dans le temps.
Ah,
c'est-à-dire qu'on va vous faire vivre tout ce que On a vécu dans l'imaginaire de chacun. Voilà, qu'est-ce qu'on fait Jean-Claude et Hervé pendant ces 15 ans où nous avons disparu de l'antenne. Donc c'est au moment où on se fait virer. C'était bien temps qu'on se fasse virer quand même. Et on va parler de tout ce qu'on a traversé, à savoir l'arrivée des smartphones, des réseaux sociaux, de hashtag MeToo, des attentats aussi, voilà, des gilets jaunes, de la crise du Covid. Et, voilà. Et on remonte le temps comme ça avec des photos et des objets qu'on va trouver au moment où nous faisons nos cartons avant de partir, parce qu'il était temps qu'on parte.
Petit point de vue sociétal dans Caméra
Café.
Oui, ce sera
un peu à la façon d'une comédie italienne, plus affreux, sale et méchant que vertueux, c'est sûr.
Bruno Solo est avec nous avec son livre « Les visiteurs d'histoire » paru aux éditions du Rocher. On continue à jouer avec l'histoire. Et si Bacchus était une femme, eh bien, il s'appellerait Ophélie Neyman, Miss Glouglou pour les intimes. Elle écrit dans M, le magazine du Monde, et dans le journal Le Monde. Elle est à notre table régulièrement le samedi. Ophélie, vous avez lu le livre aussi de Bruno. Et il y a un personnage particulier qui a retenu votre attention.
Oui, j'aurais pu parler d'Aliénor d'Aquitaine. C'était mon première envie parce qu'elle a eu un rôle décisif sur les vins de Bordeaux. Mais j'avais envie de remonter un peu plus loin et de parler d'un personnage que vous adorez, je crois. Je vous cite dans le livre « Qu'est-ce que ça picole un mérovingien ?»
C'est Clovis,
évidemment. Mais alors, qu'est-ce qu'il buvait? D'abord, il buvait beaucoup de bière. La bonne vieille cervoise des familles, elle était très consommée à l'époque en Gaule. Mais à l'époque, elle était faite avec du blé et non avec de l'orge. C'est pour ça qu'on sépare la cervoise de la bière.
Ah oui.
Mais il buvait aussi beaucoup de vin, parce qu'on buvait beaucoup pendant le haut Moyen-Âge. Et probablement, le vin était fait à la manière des Romains. Parce qu'on se situe vraiment à la charnière entre la Gaule romaine et le royaume des Francs. C'est Clovis qui fait la charnière.
Et le vin des Romains était différent d'aujourd'hui? Probablement.
Oui, il était en fait, les traces des vins romains montrent des vins absolument radicalement différents puisqu'ils étaient aromatisés avec du miel ou avec des épices et parfois on rajoutait de l'eau de mer. Alors on ne sait pas en fait comment était le vin à l'époque de Clovis parce que les historiens n'ont pas de certitude. On décrivait peu le goût du vin au 5e siècle, contrairement à l'époque romaine où on le décrivait beaucoup. Donc peut-être qu'il était plus gaulois, plus nature. En tout cas, le vin a accompagné toute la vie de Clovis parce que le jour de Noël 496, il se fait baptiser à Reims par l'évêque Saint-Rémy et forcément, il se fait baptiser avec du vin de Champagne.
Oui, mais local.
On ne s'emballe pas, il ne bullait pas à l'époque parce que l'effervescence des vins n'est pas maîtrisée avant le début du XVIIIe siècle. Mais Saint-Rémy offre une petite gourde à Clovis avec une promesse de victoire. Tant qu'il aura du vin baigné dans la gourde, il gagnera ses batailles. Comme la gourde est un peu magique, elle n'est jamais vide et du coup, il gagne.
Ça, c'est la légende, mais il y a des effets concrets?
Oui, parce qu'en se faisant baptiser, il a légitimé le christianisme en France. Et donc, il a favorisé la multiplication des abbayes. Et donc, des moines qui sont à l'origine des terroirs viticoles, puisque ce sont les moines qui ont beaucoup répandu la vigne.
Et les clos.
Et les clos. Alors, durant le Moyen-Âge, on fait pousser de la vigne sur tout le territoire français. On continue de beaucoup boire, 1 litre de vin par jour et par habitant en moyenne. Et ça, pendant des siècles.
Alors le vin qu'on boit ne date pas du Moyen-Âge, évidemment.
Ben non, mais alors du coup, ne sachant pas quoi prendre et ne voulant pas mettre d'épices dans le vin, j'ai choisi un vin nature, mais aussi un vin primeur, un vin nouveau. Et comme on n'a pas encore les primeurs 2021, c'est dans un mois à peu près, je vous ai pris un primeur 2020, donc un Gaillac primeur 2020, rien que pour montrer aussi que les vins primeurs, ça peut vieillir au moins un an. Et alors j'adore ce vin, ça s'appelle le primeur, mais ne se rend pas.
Joli.
Et c'est Marine Leis qui le fait. C'est une vigneronne qui a un domaine qui s'appelle la Vigneureuse. Vigneureuse en un seul mot. Et ça coûte seulement 9 euros. Alors préparez-vous pour la version 2021.
C'est accessible, un vrai vin de copain, comme on dit. Ça vous plaît ce Gaillac, Bruno?
Oui, ça me fait plaisir de boire des vins comme ça, effectivement. Qui n'ont aucune autre prétention que vous désaltérer, de vous faire goûter le fruit. Voilà, c'est des vins éphémères, c'est des vins de plaisir, effectivement, et je le trouve. Et je voulais que je vous dise, je le trouve plus agréable que certains Beaujolais nouveaux qui sont trop bananés.
Eh ben, on prend. Merci, voilà. Ophélie Neyman, de nous régaler comme ça avec vos beaux mots.
J'avais plein de trucs.
Oh, mais il est revenu, Grégory Gagrimbé, de l'auberge Nicolas Flamel.
J'ai un déjeuner après, moi.
Ah, ça, c'est bon. Il n'est pas parti. Mais non, mais il va être midi et demi, vous pourrez en faire un deuxième.
C'est la cuisine, c'est ça, c'est le partage.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Un pitivier.
Un pitivier.
C'est un grand classique de la cuisine française, le pitivier, col vert, foie gras poché, foie gras développé, évidemment.
C'est beau. C'est magnifique. Hein.
Chou.
Ah, il faudrait que les gens le voient aussi. C'est formé.
On va le mettre sur europe1.fr. Oui, vous allez le retrouver en photo sur europe1. Ça, c'est un vrai classique de la cuisine française.
C'est un grand classique.
Ça, c'est une surprise. Je croyais que vous étiez reparti. Vous revenez avec le pitivier.
Non, oui, voilà.
Ça, c'est beau. Merci beaucoup.
Alors,
Yves Cordebord.
C'est la haute gastronomie, c'est le respect de la tradition française. Et comme quoi, voilà, cette tradition française qu'on a, il faut savoir l'utiliser. Voilà, des fois, on n'a pas besoin d'aller chercher dans d'autres contrées, dans d'autres saveurs. Nous avons tout ce qu'il nous faut chez nous. Et quand c'est fait comme ça, c'est simplement exceptionnel. Voilà.
Ah oui, bravo. Et ce jus. Grégory Garimbé de l'auberge Nicolas Flamel. Merci Greg.
Merci Grégory.
Et bon service à vous.
Merci
à bientôt. Au revoir. Ce samedi, et bonjour à votre brigade. Eh bien, après le Pithiviers, ça y est, c'est l'heure de passer sur le grill des bons vivants, Bruno Solo. On est parti. Quel est
après ce que je viens de lui, y a pas de problème.
Le goût de votre enfance.
Le goût de mon enfance, la garbure.
Ah,
la garbure.
Avec du chou et de la cochonaille.
Voilà, avec un os de cochon dedans, parce que c'était la soupe de ma mémé, et que moi je viens des Landes et du Pays Basque, du côté de mon père, et des Landes du côté de ma maman. Et quand il y avait de la garbure, encore aujourd'hui, c'est une soupe que je m'oblige, mais c'est une douce obligation à déguster dès lors que je vais dans les Landes.
Ouais. Une belle madeleine de Proust.
Puis j'adore la soupe.
Le premier plat que vous avez cuisiné, vous vous souvenez ?
Oh mon Dieu, si vous saviez à quel point c'est une offense à la cuisine que je touche à au moindre aliment.
Ça nous intéresse.
C'est terrifiant. Les pâtes, je suis tellement peu sûr de moi que je reste au-dessus des pâtes et que je les goûte toutes les 30 secondes pour voir si elles sont cuites.
C'est ça, et vous dites...
Je n'ai tellement pas confiance à ma capacité de venir, je vais m'éloigner 2 minutes des pâtes que je les goûte toutes les 30 secondes. Alors elles sont bonnes, hein, elles sont al dente.
Oui, mais même au bout de 20 minutes, c'est pas toujours al dente, vous dites.
Oui, il m'est arrivé de faire des nouilles, d'espérer de faire des pâtes et finalement de faire des nouilles. Ça m'est arrivé quelques fois. Et mes enfants me l'ont fait. On fait tout ça, gentiment remarqué.
Votre plus beau repas ?
Mon plus beau, c'est difficile, mon plus beau repas. C'est le dernier repas. Ma mémé était malade, elle nous avait fait un dernier repas à la maison, dans les Landes, dans le village de Saint-Justin, à côté de Mont-de-Marsan, là où elle habitait. Et elle était très malade et elle tenait absolument à nous faire un repas de fête pour un dimanche où on était venus en famille. Je viens d'une très grande famille. Du côté de ma mère, ils étaient 13 frères et sœurs. Et du côté de mon père, 6. Donc,
quand on se
réunissait, ça faisait beaucoup de monde. Et elle avait tenu à faire une garbure en entrée, un confit de canard avec la sanquette. La sanquette, c'est le sang du canard qu'on fait revenir dans la poêle, comme ça, juste comme ça, le sang coulé dans la poêle, et que vous mangez. Et à la fin, il y avait ce qu'on appelle une tourte landaise, qui est une tourte aux pommes et à l'armagnac, avec de la pâte feuilletée, comme ça. C'est absolument extraordinaire comme gâteau. Et voilà, et je me souviens de ce repas, il m'avait beaucoup ému, parce qu'on devinait tous autour de la table que c'était sans aucun doute la dernière fois que mémé pouvait nous faire à manger.
Laisser sur une magnifique impression.
J'avais 14 ans.
Ah bah c'est beau ça. Voilà. Et votre pire repas ?
Ah bah ça c'est chaque fois que j'ai pas le temps de bouffer, que je m'arrête dans le premier truc venu. Alors vous savez quoi ? Il n'y a plus de pire repas. Je trouve qu'à Paris, effectivement il m'est arrivé d'aller dans des restaurants où je me demandais comment ils osent nous servir comme ça. Vous savez ces brasseries qui ont été récupérées par des grands groupes et dans lesquelles vous sentez bien que c'est de la cuisine sous vide. Mais depuis quelque temps, il y a un plaisir à Paris. Il y a plein de petits bistrots tenus par des petits couples ou des copains ou une jeune femme. Il y a plein de petits bistrots tenus par des jeunes. Je parle vraiment des jeunes, des fois des 19, 20, 25 ans. Et qui ont le plaisir du produit, d'acheter le bon produit, de bien cuisiner. Et il y a un retour de la grande cuisine française. À un moment, je trouvais que les Français... que la France avait inventé la gastronomie et l'Italie la cuisine. Oui. Parce que quand vous alliez en Italie, dans le moindre boui dans lequel vous mangiez, c'était bon. À part quelques exceptions près, souvent en Italie, on mangeait bien partout. Parce que c'était des choses simples et des bons produits. Et on est en train de retrouver ça. Et je trouve qu'à nouveau, Paris et la France a retrouvé ce goût de faire de la bonne cuisine avec des produits nobles, mais qui ne sont pas nécessairement complexes ou sophistiqués. Et ça me fait plaisir parce que maintenant, dans plein de quartiers à Paris, on bouffe super.
Et ils sont attachés à la saisonnalité, aux producteurs locaux, c'est la nouvelle génération. Et la vérité, on n'a jamais aussi bien mangé qu'aujourd'hui.
C'est incroyable. Et là, depuis une dizaine d'années, je le sens très fort dans Paris, puisque j'habite à Paris.
Il y avait un vrai souffle de avec toute la jeunesse qui est en train de mettre en place.
Mais c'est beaucoup dû à vous aussi, des chefs comme vous qui avaient encouragé des jeunes à cuisiner autrement.
Et à casser les codes.
On avait cassé les codes et pris un chemin de travers, mais je pense que le chemin de travers, ils l'ont pris et ils sont en train de l'élever à un niveau assez extraordinaire.
Ouais, vraiment. Ouais.
Quel plan mèneriez-vous sur une île déserte, Bruno Solo ?
Déjà, je me un plat. Je ne sais pas, punaise, un plat. J'essaierai déjà de faire un plat avec ce qu'il y aura sur l'île déserte. Bon, ça sera sûrement beaucoup à base de racines et de noix de coco, puis de poisson, j'imagine, parce que je ne me sens pas de chasser des jaguars. Et je ne sais pas ce que j'amènerai sur une île déserte. Non, j'amènerai un bon sandwich.
C'est ça ?
Oui, une baguette, une bonne terrine, quelques légumes. pour au moins tenir quelques jours. Bah, avant
vous
de commencer
prolongerez
à
le plus longtemps
cocos.
Possible,
oui, voilà,
jusqu'à ce que le pain soit rassis.
Voilà.
Et le mot de la fin, F-I-M.
Le mot de la fin, manger comme vous y vivez, passionnément.
Ah, c'est beau.
Voilà.
Merci Bruno Solo.
Merci.
Et d'être
merci.
Habité par cette belle passion de l'histoire, Les Visiteurs d'Histoire. C'est votre livre aux éditions du Rocher, Quand l'Histoire de France s'invite chez moi. Vous pourrez faire ripaille avec Clovis, chers auditeurs, grâce à ce livre. Merci Bruno.
Merci à vous, c'est un plaisir.
Vous venez quand vous voulez et vous retrouvez, hein, chers auditeurs, vous le savez, le podcast et les recettes, bien entendu, sur Europe 1.fr. Merci à ma belle équipe de m'avoir aidé à préparer cette émission. Lucille Escourou à la rédaction en chef, Julien Amat et Marion Sauveur à la rédaction, à la programmation et à la rédaction, Claire Dutronc, Loïc Vimard à la réalisation. Merci Ophélie Neyman.
Merci à vous Laurent.
À demain dans Le Monde.
Merci.
Salut Yves Condebord.
Merci à tout le monde.
Merci,
et bon week-end à tous.
À demain dans votre
bon
restaurant.
Samedi.
Et moi je vous dis à demain 11h pour la table du dimanche avec Gaëtan Roussel et puis un invité surprise, un de nos plus grands comédiens français viendra faire ripaille avec nous. Vous voulez savoir de qui il s'agit? Eh bien, rendez-vous demain 11h sur Europe 1. Dans un instant, c'est Europe Midi avec Thierry Dagiral. Bon week-end!